comprendre les contradictions de ce petit émirat, il faut remonter les pistes que les caravanes de nomades ont sillonnées pendant des siècles. Aujourd'hui, ces plaines inhospitalières sont le terrain de jeu de puissants 4x4. Cette meute est à la poursuite d'un faucon, lui-même en train de pourchasser un pigeon. Cette compétition retransmise en direct à la télévision récompense la meilleure écurie de fauconnerie du Qatar. Jusqu'au milieu du XXe siècle, cet art de la chasse servait à se nourrir dans un des déserts les plus hostiles de la planète. C'est désormais un sport de prestige où les gagnants repartent avec des récompenses mirobolantes.
Tous ceux qui attrapent un pigeon aujourd'hui gagnent 25 000 euros. Lors de la finale, ils remportent un 4x4 de luxe.
Ces prix sont offerts par la famille royale. Cela permet d'entretenir les traditions des Bédouins, les bergers nomades de la péninsule arabique. Le commentateur officiel, Ahmad Al-Jamil, est un des plus fervents défenseurs de cet héritage.
Voici mon campement.
Ce fauconnier est même devenu une star sur les réseaux sociaux qatariens.
Ça va si je m'assieds comme ça? Notre gouvernement, avec à sa tête son Altesse l'émir Sheikh Tamim, tient beaucoup à cette tradition, tout comme il tient aussi au sport, à la santé et aux coutumes populaires que nous avons héritées de nos ancêtres. Et nos liens avec les faucons font partie de cette histoire.
Le Qatar ne veut pas être perçu comme possédant juste du pétrole, du gaz, des capitaux. Ils veulent montrer qu'ils ont aussi une identité bédouine originelle.
Venez, je vais vous montrer. Tous ces appareils servent à entraîner les faucons. Dans cette tente, nous entreposons tous nos drones et nos avions pour les faucons. J'en ai beaucoup car tous les jours on en casse, peut-être un ou deux.
C'est une combinaison d'ancien et de moderne. Vous avez des éléments qui rappellent le temps des Bédouins du désert, mais avec toutes les commodités et le confort possible.
C'est pas la chasse du dimanche avec son fusil et ses cartouches, c'est plutôt la chasse à court, quoi. C'est pas uniquement un faucon, c'est la cage du faucon, les médicaments du faucon, l'alimentation du faucon, les 10 personnes pour s'occuper du faucon, etc., etc., etc.
Dans cette version folklorique de la société bédouine, les femmes restent invisibles. Ces Qatariens sont les héritiers d'une culture musulmane rigoriste, le wahhabisme. Un courant religieux ultra-conservateur venu d'Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. Encore aujourd'hui, de nombreuses lois qatariennes sont directement inspirées de la charia, la loi coranique. Au Qatar, la population est composée principalement de grandes tribus musulmanes sunnites qui ont toujours tissé des liens de parenté entre elles.
La société qatarienne est une société conservatrice où les gens sont très unis. Nous avons vécu dans des conditions de vie très difficiles et nous sommes restés soudés. Nos liens se sont même renforcés avec le temps. Aujourd'hui, le peuple qatarien vit comme une seule famille, dans une même maison.
Mais en seulement 30 ans, les milliards des hydrocarbures ont transformé cette société à une vitesse et dans des proportions rarement vues dans l'histoire. À Doha, la vie sociale s'organise désormais dans ces galeries climatisées, des temples de la consommation. En tant qu'influenceur, Ahmad a été invité ce matin à faire la promotion sur les réseaux sociaux de marques de parfums, une des passions des pays du Golfe.
J'adore les parfums. Celui-ci a une odeur qui me plaît énormément. Il s'appelle Ne m'oublie pas.
Les Qatariens sont souvent décrits comme les gens les plus riches de la planète. Est-ce que c'est vrai?
Je ne sais pas. Je l'espère. Vous en pensez quoi, vous?
Je ne pense pas qu'il y ait des pauvres au Qatar. Ici, le système d'aide sociale et le réseau de protection sociale sont excellents.
Le Qatar, c'est même pas l'État-providence, c'est l'État-perfusion, quoi. Les Qatariens n'ont pas de dépenses. Tu es malade, tu veux partir aux États-Unis pour te faire opérer dans le meilleur hôpital américain et ça coûtera 50 000 dollars la journée, il n'y a pas de problème.
L'État assure l'éducation et la santé gratuitement, ainsi que d'autres services publics, comme l'électricité, l'eau. Ces services sont tous gratuits pour l'ensemble des citoyens qatariens.
Les Qatariens, ils n'ont pas besoin de travailler, l'État prend tout en main, ils ont des maisons, ils ont de l'argent, ils ont des revenus. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais il n'y a pas l'obligation de travailler.
Je vous raconte ma journée type. Je pars au travail à 8 heures, puis je rentre à la maison pour déjeuner avec ma famille. L'après-midi, je fais la sieste ou je prends un café. Je passe du temps avec mes proches.
80% des Qatariens travaillent comme fonctionnaires et tous disposent de nombreux domestiques. Dans cette monarchie, les sujets de la famille royale remercient leurs dirigeants dès qu'ils en ont l'occasion. C'est une manière d'afficher sa loyauté.
Je n'aurais jamais imaginé qu'on atteigne ce niveau de développement. Mais grâce à Dieu, Son Excellence l'émir et Son Altesse le Père de l'émir ont construit Doha et le nouveau Qatar.
Cette modernisation à marche forcée s'est produite en une seule génération. Au 23e étage de cette tour qui lui appartient, Faisal bin Qassim Al Thani est considéré comme l'un des bâtisseurs du Qatar moderne. Ce prince fait partie d'une des branches de l'impressionnante dynastie des Al Thani. Comme l'islam le permet, les hommes peuvent épouser plusieurs femmes et tous ont de très nombreux enfants.
Ça, c'est l'arbre généalogique des Al Thani. Ça, c'est moi. Au-dessus, il y a mon père et mon grand-père. C'est un arbre généalogique resserré. Sinon, on serait des milliers sur cet arbre. Nous formons l'une des plus grandes familles du monde arabe.
Les Al Thani prennent le pouvoir à Doha au début du 19e siècle. L'émirat formait alors une province reculée de l'Empire ottoman. Dans un de ses palais, le milliardaire Faisal bin Qassim a créé un musée à son nom pour raconter cette destinée.
Regardez. Ça, c'est le drapeau du Qatar. Il est composé de 9 pointes de lance, une pour chaque tribu. Et c'est ainsi que c'est devenu l'emblème qui nous unit depuis plus de 200 ans.
La plupart des 300 000 Qatariens descendent de ces tribus originelles. Car la nationalité ne se transmet que par le droit du sang. Et dans cette société patriarcale, uniquement par celui du père. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman disparaît. Le Qatar passe sous protectorat anglais. À l'époque, voici à quoi ressemblaient les maisons du clan Al Thani.
C'est une reconstitution que j'ai fait réaliser. C'est une réplique de notre village avant le pétrole. Tout est en terre battue. J'ai vécu dans ce genre de maison jusqu'à l'âge de 10 ans. Ici, c'était la chambre de ma grand-mère. Et là, le salon des hommes. Ça, c'était l'épicerie. Je veux garder ce souvenir du passé pour que ma famille et les gens puissent voir comment notre vie a changé, comment on est passé d'un mode de vie à un autre.
Cette existence, presque hors du temps, est bouleversée dans les années 30 et 40 par l'arrivée d'ingénieurs étrangers à la recherche de pétrole.
C'est la première voiture importée au Qatar.
Les Anglais créent avec des membres de la famille royale la première société d'extraction.
Mon père était le prince en charge de la compagnie pétrolière. Moi, j'étais encore enfant et je l'accompagnais toujours lors du forage des puits. Je voulais toujours être présent pour regarder le pétrole jaillir d'un puits pour la première fois. Lorsque le pétrole surgissait en grande quantité, c'était quelque chose de miraculeux.
La première cargaison de pétrole a été exportée en 1949, ce qui a marqué une étape importante dans l'histoire du Qatar et a chamboulé l'économie nationale. Au cours des années 50, les Qatariens découvrent la société de consommation occidentale. Mais les réserves de pétrole se révèlent moindres que dans les pays voisins, qui connaissent une croissance beaucoup plus rapide. À la fin des années 60, les Anglais en pleine décolonisation ne veulent plus assurer la sécurité des principautés du Golfe. En 1971, le Qatar, comme le royaume voisin de Bahreïn, doit choisir entre l'indépendance ou rejoindre la Fédération des Émirats Arabes Unis, qui est en train de se créer autour des familles régnantes de Dubaï et d'Abu Dhabi.
Dans les années 70, le Qatar, c'est un peu le moins que rien dans toute la région. Par rapport à Abu Dhabi, par rapport à Dubaï, par rapport à Bahreïn, etc., ils sont considérés comme... pas grand-chose. Le Qatar a cette espèce d'aigreur d'être mal considéré par les autres.
La solution la plus évidente était de former une seule union, et c'était le plan originel.
Mais il y avait beaucoup de désaccords sur le mode de gouvernance. Vous aviez une multitude de familles régnantes.
Par peur de tomber sous la coupe de ses voisins, le Qatar choisit de faire cavalier seul. C'est Khalifa, le grand-père de l'actuel émir, qui annonce l'indépendance à la télévision. Cette annonce a été vécue comme une trahison par les autres monarchies du Golfe et n'a jamais été pardonnée. D'autant plus que dans les années qui suivent, un vaste gisement de gaz sous-marin est découvert. Au pouvoir à cette époque, l'émir Khalifa se méfie d'un développement trop rapide et ne croit pas dans l'exploitation du gaz. Préfère dépenser de la rente pétrolière dans de longs voyages à l'étranger et déléguer à son ambitieux fils Ahmad l'exercice du pouvoir.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyidi sahib al-Sumu Amir al-Mufadda. Yusharrifni an urahhiba bismuwikum fi quwwatikum al-musallaha bayna junudin lakum.
Ahmad, c'est un parcours assez classique des gens des familles royales du Golfe. Formation en Angleterre, Académie militaire, Sandhurst, et puis retour ensuite dans le gouvernement du Qatar.
Il a un physique impressionnant. Il a un bon sens de l'humour, bien qu'il ait l'air très sérieux. C'est une personnalité qui en impose.
wird immer beschrieben als ein Charakter.
Il est toujours décrit comme un personnage plus grand que nature. Avec une personnalité incroyable qui attire automatiquement l'attention quand il rentre dans une pièce. Quelqu'un avec des idées très claires sur ce qu'il voulait.
En réalité, c'est lui qui assez vite va se retrouver avec la charge de la gestion du Qatar. Son père, toujours à droite à gauche, moins intéressé.
Il était relativement évident que tant que son père serait au pouvoir, rien de majeur n'allait se passer. Il a donc profité, en 1995, d'un séjour de son père à l'étranger pour prendre le pouvoir dans un coup d'État sans effusion de sang.
Cette révolution de palais donne les pleins pouvoirs à Ahmad. Son père, lui, se retrouve forcé à de longues années d'exil en France, puis en Italie.
Mais c'est pas renverser son père pour accaparer le pouvoir, c'est renverser son père avec une idée réelle de ce que peut être le Qatar, de ce que doit être le Qatar.
Il existe une anecdote. Cheikh Ahmad venait d'atterrir en Grande-Bretagne ou en France. Le responsable à l'immigration regarde son passeport et lui demande « C'est un passeport qui vient d'où? C'est quoi le Qatar ?» Cet événement illustre pourquoi Cheikh Ahmad s'est donné comme mission de transformer le Qatar, pour le placer sur la carte du monde.
Je n'ai jamais entendu cette histoire. De quel bureau d'immigration s'agit-il? Mais je demanderai à mon père, ça a l'air intéressant.
Que cette anecdote soit véridique ou pas, elle illustre l'ère de Cheikh Ahmad, durant laquelle le Qatar est passé d'un petit pays endormi et reculé du Golfe à un État important en termes d'influence, une puissance dans cette région du monde. In this part of the world.
You know, I think my father was a visionary man. Mon père était un visionnaire. Il voulait marquer l'histoire.
Il est à peu près convaincu que si le Qatar stagne, le Qatar est presque en danger. Voilà, parce qu'il a deux voisins qui sont impressionnants et potentiellement dangereux, qui sont l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran.
Pour réaliser ses ambitions, Ahmad a lancé l'exploitation du champ gazier de Northfield, situé à cheval entre les eaux territoriales qatariennes et iraniennes. Cette relation économique entre la grande puissance chiite et la petite monarchie sunnite rend le Qatar suspicieux aux yeux des autres pays de la péninsule arabique. Mais Ahmad n'en a que faire. Lui est persuadé que le gaz est une énergie d'avenir. Pourtant, à l'époque, son extraction, mais surtout son transport, coûte beaucoup plus cher que ceux du pétrole.
Et puis cette technologie est apparue, qui consiste à liquéfier le gaz, ce qui permet de le stocker sur des navires. Et alors, tout comme le pétrole, il peut être distribué partout dans le monde.
Le tout nouvel émir s'endette lourdement auprès de banques occidentales et investit des milliards d'euros pour fabriquer des méthaniers. Ces navires emmagasinent le gaz dans des bonbonnes géantes sous forme liquide à une température de moins 167 degrés. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié.
Il y avait des craintes à l'époque qu'il n'y ait pas de demande suffisante en gaz, que tout ça ne soit en fait qu'une bulle qui éclate et que tout cet argent soit perdu.
Ils ont parié là-dessus, comme peu l'avaient fait avant lui. Si cela n'avait pas fonctionné, le Qatar aurait probablement été ruiné.
La demande de gaz s'envole à la fin des années 90. Grâce à ses investissements, le petit royaume prend des années d'avance sur ses concurrents et joue désormais dans la cour des grands avec les géants russes et américains.
Le Qatar est devenu la première source de gaz naturel au monde, exportant vers des pays influents de la scène politique et économique mondiale, notamment vers l'Asie, en Corée du Sud, au Japon ou en Inde, mais aussi vers l'Europe. L'économie du Qatar avait désormais la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de plus de 10% par an.
Le visage de Doha a changé brutalement.
je suis arrivé ici, c'était que des dunes de sable. Il n'y avait pas cette voirie, c'était du sable. Il y avait juste le Sheraton qui était construit, hein, l'hôtel qui a la forme d'une pyramide, mais il n'y avait aucune tour. Et donc entre 2003 et 2008, ils avaient construit déjà une trentaine de tours pratiquement. Et puis après, ça a été l'explosion. Ça fait partie des miracles du désert.
Disposant de moyens désormais illimités, Ahmad Al-Thani fait venir entreprises et travailleurs du monde entier. L'émir lance son pays dans une série de chantiers pharaoniques, comme celui de la Perle. Ce complexe d'immeubles est construit sur des îles artificielles et symbolise des coquillages avec en leur centre des perles, des hôtels de luxe. Spécialiste des travaux publics depuis plus de 40 ans, Christian Dumont a participé à la réalisation de plusieurs de ses grands projets.
Cette station de métro, elle est impressionnante parce que c'est l'une des plus grandes du monde. La surface au Qatar ne compte pas, c'est pas une question de surface, c'est vraiment une question, on peut le dire, de prestige.
De la signature du contrat, estimé à 40 milliards d'euros,